Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec, pour présenter l'émission, Mathieu Maury et Laurent Godineau et Claude à la technique. L'émission de ce soir est consacrée au monde rural. Cette émission s'intitule « Le monde rural, quel avenir en France ?» Pour en discuter, nous aurons trois invités. Donc Jean-Claude Billot, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces, l'ADIS, et co-rédacteur en chef de la revue Nature, Sciences, Société. Au téléphone, Vadik Berberian, voilà, et j'avais une faute de frappe sur le nom. Donc, Association des maires ruraux de France.
Président.
Et puis, donc, Cécile Yordanov, qui sera notre invitée en deuxième partie d'émission, réalisatrice du documentaire Espinasse, un village de France au XXIe siècle. Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10.
Alors si vous pouvez éviter d'appeler, puisqu'on aura déjà deux invités au téléphone.
C'est vrai que ça va être compliqué, à moins d'appeler pendant les pauses musicales. Merci Mathieu. Et donc l'émission, vous pourrez la retrouver ensuite, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org. L'émission sera rediffusée mercredi prochain à 7h30.
Pour les matinaux.
Voilà. Donc nous allons commencer l'émission avec nos deux premiers invités. Donc Jean-Paul Billot, sociologue, directeur de recherche au CNRS, donc directeur du laboratoire dynamique sociale, recomposition des espaces, co-rédacteur en chef de la revue Nature, Sciences et Société. Nous avons également en ligne, qui doit appeler très prochainement, Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France. Donc peut-être pour commencer, une première question peut-être de lexique. Comment peut-on définir le monde rural? Qu'est-ce que le monde rural?
Oui, c'est une définition qui est à la fois statistique et en même temps qui renvoie à beaucoup d'autres problèmes. Actuellement, traditionnellement, jusqu'aux années, grosso modo, l'INSEE, jusqu'à 1980, fin des années 90, définissait le rural par les communes qui étaient moins de 2000 habitants. C'est-à-dire que l'idée, c'était un seuil démographique qui permettait de dire, en dehors, au-dessus de 2000, on est
dans
l'urbain. Et évidemment, c'est quelque chose qui est toujours artificiel quand on fait des frontières comme ça. Et actuellement, l'INSEE est revenu sur ces définitions-là, proposant un autre type de définition, c'est-à-dire partager l'ensemble de l'espace français entre des aires urbaines, d'un côté, et puis de l'autre côté, des aires d'emploi de l'espace rural. C'est les définitions administratives actuelles. En fait, derrière cette nouvelle définition des aires d'emploi de l'espace rural, c'est que ça a permis un petit peu d'affiner un peu la lecture que l'on a de l'espace rural, c'est-à-dire que à partir de la notion d'emploi, c'est-à-dire qu'on a pu ainsi distinguer un rural qui est où il y a une sorte de vitalité qui est liée à l'emploi, on y reviendra sans doute tout à l'heure, et puis de ce qu'on appelle par ailleurs le rural profond.
D'accord.
Alors le rural profond, c'est ce que les statisticiens appellent ou les géographes la diagonale du vide, c'est-à-dire si vous prenez une carte et que vous voyez par rapport au peuplement, vous voyez une diagonale qui va de la Meuse à peu près dans le nord-nord-est de la France, qui descend jusqu'aux Pyrénées et qui traverse le Massif central, la Creuse et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire c'est très faible densité, donc c'est ce qu'on appelle un peu le rural profond.
D'accord.
Ça, c'est la définition administrative. Après, c'est une. Moi, je suis sociologue. C'est une autre approche. Enfin, en tout cas,
c'est un peu restreint cette définition.
C'est une définition qui est pratique, qui permet de faire des cartes, qui permet de, pour des gestionnaires, de définir des politiques publiques, etc., avec les questions de densité de population ou autre. Mais derrière, la notion de rural est beaucoup plus complexe. La notion de monde rural est liée un petit peu à notre histoire et l'idée que l'on a un peu du rural traditionnellement, c'est de dire, enfin, l'image qu'on peut faire, qu'on peut donner. Si on interrogeait un peu les gens, ça serait de dire, c'est cette image un petit peu idyllique d'une osmose entre une communauté productive, un territoire et un mode de vie. C'est-à-dire que c'est un peu cette image un peu du village paysan qui est en fait est historiquement quelque chose d'extrêmement récent, quoi. Et donc cette image-là, elle est basée sur un peu quatre types de propositions. La première proposition, c'est qu'on définit le rural par opposition à la ville. Hein, c'est le couple urbain-rural fonctionne toujours dans une sorte de modalité de contradiction traditionnellement, ou en tout cas d'opposition. Ce qui est une vieille histoire, parce que même avant, j'allais dire depuis 1000 ans, le rural, c'est toujours, le domestique, c'est toujours défini par rapport à quelqu'un d'autre. Le rural n'a pas de définition en soi, il se définit par opposition à. Dans un premier temps, il s'est défini par rapport à la forêt. C'est-à-dire, c'était le rural, c'était le domestique par rapport au sauvage. Mmh. Et puis, dans un deuxième temps, disons, depuis grosso modo l'an 1000, c'est le rural par rapport à la ville.
D'accord. Et alors qu'il était largement majoritaire dans la population jusqu'au début du XXe siècle. En fait.
Jusque l'apogée du rural, c'est en termes de population, toujours sur la base des 2000 habitants, c'est 1850-1870. C'est là que ça va basculer, qu'on va basculer vers ce qu'on appelle l'exode rural et à partir de ce moment-là. Et donc c'est une définition qui... j'allais dire, permet un petit peu de poser des questions sur qu'est-ce que c'est ce type d'espace-là. Est-ce qu'il y a une spécificité de cet espace? Lorsqu'on parle territoire, mode de vie, groupe productif, c'est un peu l'idée derrière, c'est un espace qui est organisé par l'agriculture, par l'activité productive de l'agriculture. C'est un espace qui a une spécificité par rapport à la ville, en opposition. Et c'est un espace de mode de vie, c'est-à-dire que les sociologues, par exemple, sont beaucoup intéressés pour savoir si vivre dans le rural était, sur le plan sociologique, quelque chose qui était clivant par rapport à la ville, c'est-à-dire dans ce système d'opposition entre l'un et l'autre. Et ça a eu des conséquences assez récentes, disons depuis un siècle, qui est un peu le fait que, à partir du XVIIIe siècle, grosso modo, le rural est devenu de plus en plus agricole, hein, et surtout à partir de l'exode rural qui prend sa grande puissance à partir de 1850-1870, le rural qui était, j'allais dire, pas seulement agricole, il y avait des gens qui travaillaient autour de l'agriculture, qui avaient donc une diversité sociale assez importante, le rural s'est un petit peu agricolisé, si je puis dire. Donc on a une tendance à confondre ou assimiler rural et paysan, alors que c'est pas tout à fait le cas, et puis par glissement, surtout depuis dans la dernière période, à confondre campagne et nature. Donc c'est un petit peu ces questions-là, hein, ces manières de définition qui sont derrière, d'un côté, une définition très statistique, un peu qui a une utilité dans la politique publique, et de l'autre côté, des enjeux, d'aller dire, de compréhension de ce que sont les individus qui vivent dans ces espaces-là. Est-ce qu'ils vivent de façon spécifique? Est-ce qu'ils ont des modes de vie qui les opposent totalement à l'urbain? Ou au contraire, est-ce que ils sont dans une sorte de continuum entre ce qui se passe en ville et ce qui se passe au rural? C'est ça la question du rural, disons, pour essentiel. Donc on va y revenir, si vous voulez, tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce modèle que je suis en train de vous décrire, il n'est plus tout à fait à l'ordre du jour.
Pour compléter un peu cette vision, on va accueillir Vanik Berberian. Vous êtes là?
Ah, allô,
Monsieur Berberian. On pensait qu'il était arrivé, mais apparemment, il y a un petit problème de ligne.
Oui, on n'entend pas Monsieur Berberian. Alors,
il va peut-être nous rappeler dans 2 minutes. On a un petit souci de ligne.
Il appelle, on nous fait signe. Ah.
On va peut-être continuer.
Donc on va continuer,
et puis on reviendra tout à l'heure avec Monsieur Berberian.
Donc, sur justement, vous nous avez parlé un peu de la démographie. Peut-être qu'on peut revenir sur cette courbe démographique entre le monde rural et le monde urbain. Avec, vous nous disiez, un pic vers 1850 et ensuite c'est l'exode rural. Alors peut-être, nous expliquer un peu ce phénomène, quelles en étaient les causes et venir jusqu'à la situation actuelle où le rural représente une part assez faible de la population française.
Un quart environ.
Pour revenir à la situation actuelle en termes de population, si on prend la catégorie espace rural, aire rurale dont j'ai parlé tout à l'heure, le rural, grosso modo, en termes de territoire, ça représente 60%. Quand vous prenez une carte sur l'ensemble, je ne vais pas vous dire des kilomètres carrés, mais 60% du territoire est classé par l'INSEE comme rural, soit rural pôle d'emploi, soit rural profond. Ça représente 18% de la population française et 13 millions d'habitants. Voilà, sur 65 millions d'habitants. Donc, évidemment, c'est une part minoritaire de l'espace. Alors, vous me demandez comment on en est arrivé là. Évidemment, ça devient un peu plus compliqué. Moi, je suis pas historien, mais... c'est évident, enfin, ça va nous rappeler nos études secondaires, la révolution agricole du XVIIIe siècle, qui fait qu'on va supprimer les jachères, qui fait qu'on va pouvoir donc nourrir plus d'individus sur l'espace de production, les légumineuses. Donc, il y a une véritable révolution agricole qui fait que ça modifie complètement les conditions.
Avant la révolution industrielle, en fait.
Avant la révolution industrielle, ou en France, oui, avant la révolution industrielle, il y a ensuite cette émergence de l'industrie, de la révolution industrielle, de l'industrie en France à partir du 19e siècle, un petit peu tardivement en France par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, on le sait très bien, et cette irruption, en tout cas arrivée de l'industrie, qui commence à se concentrer dans les villes, parce que il y a une exception française, en fait. Il y a une véritable exception française au niveau européen par rapport au rural. C'est que le rural a toujours été un lieu de production et de production industrielle.
Ah, hein.
Il a été traditionnellement... Et ça, c'est une exception française dans l'espace européen. À partir du 14e, 15e siècle, les industries, c'est ce qu'on appelle les manufactures
ouais,
se mettent en place... même la métallurgie se fait sur le bord des rivières, des fleuves. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du territoire, l'industrie n'est pas concentrée comme c'est le cas en Angleterre. Elle est beaucoup plus dispersée dans l'espace, quoi.
D'accord.
Et la rupture.
Les usines de la campagne.
C'est les usines de la campagne, oui. Et c'est les manufactures, c'est le travail domestique, c'est le travail dont Marx parle d'ailleurs sur le domestic system.
D'accord,
domestic system, c'est cette association entre l'agriculture d'un côté et l'industrie de l'autre, l'industrie qui est à l'échelle du rural. Et la rupture du milieu du 19e siècle, qui est évidemment accélérée par l'équivalent de l'Internet de l'époque, c'est-à-dire la mise en place des réseaux ferroviaires, c'est exactement la même chose, accélération, on se dégage plus ou moins de la production locale, donc on peut exporter ailleurs, donc on a une mise à distance par rapport au lieu, et donc concentration de l'industrie dans certains secteurs et en particulier dans les milieux urbains, aux alentours des villes, autour des villes. Et donc ce processus-là, évidemment, provoque peu à peu un exode rural. L'exode rural, il est lié au fait que on peut nourrir plus de gens sur la terre, mais on a moins besoin de bras parce qu'il y a la mécanisation qui commence à se mettre en place. Donc, on dégage de la main-d'œuvre qui ne peut plus être employée sur place. Et dans le même temps, on a des industries qui ne sont plus à proximité, mais qui sont concentrées dans des lieux, dans des nœuds ferroviaires, si je puis dire. Ouais. Et donc, on dégage, si je puis dire, la campagne un petit peu de sa dimension industrieuse qui était celle qui caractérisait l'espace traditionnel, l'espace rural. Donc, à partir du 19e, on est un peu dans le modèle que on qui est en train d'être complètement transformé aujourd'hui, mais qui était celui de la concentration en ville de la production alors qu'elle était complètement distribuée sur l'ensemble du territoire, et le fait que l'espace rural se replie de plus en plus sur sa composante agricole, et donc le village devient un village d'agriculteurs, beaucoup plus un village de paysans. Bon, il reste encore des artisans, etc., etc., mais il y a beaucoup moins d'emplois manufacturiers au niveau du village, donc cet exode va prendre peu à peu de la place à partir du 19e siècle. Un exode d'ailleurs qui est complètement combattu par, moi je suis originaire de l'Ouest, qui est combattu par toute la tradition catholique. Je ne sais pas si il y a au début du siècle, du 20e siècle, un mouvement qu'on appelle le mouvement des agrariens, et les agrariens, c'est des gens qui disent la richesse de la nationale, elle doit être basée sur l'agriculture, sur la terre, et pas sur... Donc c'est la terre ne ment pas, c'est la ville qui est le lieu de toutes les débauches, donc on va essayer de freiner cet exode rural dans l'Ouest français, par exemple, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez une carte de l'Ouest français, vous avez encore une assez forte résistance de l'industrie manufacturière locale, le textile, et qui est en fait issue de cette résistance, à partir du 9e siècle, de la tradition catholique, à faire en sorte que les gens n'aillent pas se perdre dans l'espace urbain qui est le lieu de toutes les débauches, et puis se rester sur place. Donc là, des pôles de résistance où l'industrie manufacturière reste sur place, mais le reste, évidemment, le grand mouvement, c'est le mouvement vers les villes.
Je crois que Monsieur Vanik Berberian nous a rejoint.
Oui, il est là.
Ah, voilà.
Bonsoir.
Bienvenue, merci.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez pu entendre
l'intervention de M. Je prends comme ça les choses en cours de route. Donc,
d'accord. On commençait à évoquer les définitions du monde rural et puis les grandes évolutions, les grands bouleversements qu'il a connus, surtout au XXe siècle. Vous, quel est un peu votre point de vue en tant que... Donc vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France et vous êtes maire d'une commune dans l'Ain. Gargilès-Dampierre, c'est ça ?
Gargilès, voilà, Gargilès, qui est en plein dans le Berry, au centre de la France.
328 habitants, c'est ça ?
350 habitants, ouais. Et je dis que c'est rural parce qu'il y a plus d'animaux que d'humains.
D'accord. C'est votre définition,
c'est votre définition.
Du monde rural, un peu.
Définition, ouais. J'en ai d'autres, hein. Une commune rurale, c'est quand on laisse ses clés sur le contact de la voiture, quand on va faire une course, vous voyez.
On n'a pas de
risque.
Une
commune rurale, c'est quand on connaît le numéro de téléphone du maire parce qu'il est dans l'annuaire du téléphone et qu'on l'appelle à n'importe quelle heure. Voilà, c'est la définition.
Définition pratique, mais...
Oui.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi plus de solidarité, proximité, on va dire, dans le tissu rural que dans le tissu urbain.
Voilà. C'est la proximité, en fait, qui fait le caractère de la vie rurale, encore que on peut aussi trouver le même type de rapport dans les quartiers, parfois en zone urbaine. Mais voilà, c'est vrai qu'on a coutume de parler de solidarité, de proximité, ce qui ne veut pas dire que les choses soient toujours idylliques, hein, parce qu'on est quand même en relation avec les humains. Il y a parfois quelques difficultés de voisinage, et le maire est aussi là pour faire parfois arrondir les angles et faire le juge de paix.
Et vous, en tant que maire d'une commune rurale, quelles sont les grandes évolutions que vous avez pu observer dans la deuxième partie du XXe siècle, et notamment sur la culture rurale, sur le mode de vie, sur les communes
rurales? Je vais parler en général, parce que la commune dont je suis le maire est une commune un petit peu atypique, parce que elle a un passé touristique et une actualité touristique forte qui est liée au fait que Georges Sand avait une maison dans le village, qu'elle y est venue à plusieurs reprises, qu'elle a drainé avec elle des peintres de l'époque impressionniste, ce qui fait qu'il y a toute une tradition culturelle et artistique et qui a fait en sorte que ce village berrichon soit aussi tourné vers l'extérieur et soit habitué à rencontrer des populations nouvelles.
Beaucoup de visites.
Voilà. Alors après, si on regarde plus généralement, moi je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde rural est quelque chose de particulièrement important, qui est une prise de conscience des atouts que représente le monde rural, et on est passé d'une forme de complexe, hein, je pense que le mot est assez juste, une forme de complexe d'être rural, à une forme de fierté. Ouais. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau, parce que c'est vrai que c'est le rapport à l'identité traditionnelle rurale est quelque chose qu'on a vu, y compris dans le folklore, par exemple, la Renaissance, hein, de l'intérêt pour la musique traditionnelle il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est pas uniquement une propension à retourner vers les racines, c'est aussi de se projeter dans l'avenir et de dire que les territoires ruraux sont une chance pour le développement, d'abord parce qu'on a l'espace et en plus parce qu'on a des gens qui y vivent et qui ont des capacités et on est prêt aussi à accueillir de nouvelles populations. Donc voilà, moi j'ai plutôt une perception positive, même si il faut lutter contre une forme de réduction des services publics, par exemple, hein. Il y a tout un tas de
alors ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On a prévu un temps pour cette thématique. On va justement, vous faites bien la transition sur la fierté d'avoir ce caractère rural. On va faire une première pause musicale et on va écouter les bombes de balles. Parlez pas toi.
Voilà, on va continuer en français parce qu'on maîtrise pas le patois. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, l'émission consacrée au monde rural ce soir. Jean-Paul Billot, vous vouliez intervenir notamment sur les aspects sociaux, le profil social dominant dans le monde rural. C'est pas forcément celui qu'on croit. Hein.
Oui, c'est-à-dire que dans les années 90, lorsque Monsieur le Président parlait effectivement d'une sorte de, pas mépris, mais une sorte de mise à distance à l'égard du rural comme étant un peu, bon, il y avait cette fameuse expression, les ploucs, enfin tout, bon, et qu'il y a une réaction par rapport à ça, et c'est évident que ça me paraît tout à fait juste. Et on a observé sur le plan démographique ce qu'on a appelé une renaissance rurale. Mmh. À partir des années 90, on voit commencer ce fameux exode dont je parlais auparavant, qui est très présent à partir du milieu du 19e siècle, s'inverse, et personne ne s'y attend. La courbe s'inverse, c'est-à-dire qu'en tout cas, elle se stabilise, et depuis les années 2000, la progression démographique est plus forte, alors pas en valeur absolue bien entendu, mais en termes de progression, et plus en pourcentage, elle est plus forte dans le rural que dans l'urbain.
C'est lié à la périurbanisation ou à des néo-ruraux ou à une renaissance de l'activité autonome?
C'est lié à un effet migratoire très clair. Il y a maintenant on est sorti d'une phase d'exode rural qui a duré grosso modo un siècle et demi, quoi, à une phase de ce qu'on appelle l'exode urbain. Et c'est ça qui, et dans les années 90, on a qualifié ça comme une renaissance rurale. C'est-à-dire qu'on a pensé que le rural allait se revivifier grâce à ça. Et là, il y a un débat parmi les sciences sociales, les sociologues là-dessus. C'était un géographe qui s'appelait Bernard Kayser, qui avait été passé par les États-Unis, qui avait vu ce processus aux États-Unis et qui est venu en France, qui a regardé un petit peu plus les statistiques, qui s'est dit, mais on est en train de vivre la même chose qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réticent à employer le terme de renaissance rurale. C'est-à-dire qu'en définitive, le grand problème qui se pose aujourd'hui, alors ça vaut sans doute pas pour la commune de 300 et quelques habitants, mais pour ces aires qui sont à la périurbanisation, c'est-à-dire qu'en fait, cette renaissance migratoire, même dans le cadre de ce qu'on appelle les aires de l'espace rural, elle ressemble de plus en plus à une urbanisation diffuse plutôt qu'à une renaissance rurale, si vous voyez un peu la...
Et dans les modes de vie, et dans l'emploi et...
Oui. Et en fait, on arrive aujourd'hui à une statistique, en tout cas, c'est-à-dire cette migration qui a commencé avec les néo-ruraux dans les années 68, qui était une migration utopiste de gens qui recherchaient le désert.
Ils n'allaient pas forcément habiter à proximité d'une ville.
Non, eux, au contraire, ils cherchaient le désert, le rural le plus profond, c'est-à-dire ils essayaient de s'exclure. Ensuite, il y a une phase, ça a été beaucoup étudié ça, il y a une phase après, il ne restait pas plus d'un hiver. l'hiver pour la plupart parce que c'est trop dur. Mmh. Ensuite, il y en a qui se sont installés. Et donc, il y a eu tout ce mouvement-là de néo-ruraux. Mais il y a surtout aujourd'hui une migration ville campagne qui est extrêmement importante, hein, qui représente, on est passé de, les chiffres, c'est 27 néo-ruraux, mais au sens large, pour 10 000 habitants qui partent aujourd'hui, il y a 10 ans, aujourd'hui c'est 64, c'est-à-dire il y a énormément d'arrivées, et c'est de toute évidence beaucoup plus une migration de la pauvreté qu'autre chose. C'est plutôt ça qui est en fait...
Pour raison de prix du logement.
Pour raison de prix du logement, pour des couples qui s'en vont et en fait ils vont pas trouver de travail, ou il y en a un seul qui va trouver de travail, c'est-à-dire les statistiques aujourd'hui sur le plan de la composition du rural, sociographique, j'allais dire, du rural, est assez... plaide moins pour une renaissance rurale au sens propre du terme et plaide davantage pour une sorte d'urbanisation diffuse, mais l'urbanisation diffuse qui concerne beaucoup plus les couches les plus paupérisées de la population plutôt que... Bon, dans le rural, c'est là où il y a le moins de cadres et de professions intellectuelles. Monsieur, la plus grande proportion, c'est les ouvriers. C'est, ils représentent 30% de la population rurale.
Monsieur Berberian, est-ce que ça fait écho à ce que porte votre association?
Encore que je trouve l'analyse un petit peu schématique, donc je dirais que c'est assez juste de façon générale, mais en même temps, je crois qu'il faut pas concentrer l'observation sur ce profil de population, parce que même si effectivement on a des gens qui fuient la ville pour essayer de retrouver un cadre de vie un peu plus confortable à la campagne pour des raisons économiques, on a aussi des gens qui viennent à la campagne pour rechercher une qualité de vie, et grâce donc au développement des nouvelles technologies, grâce aussi à une certaine faculté de déplacement avec les TGV et les trains, on a quand même des gens donc qui viennent vivre à la campagne parce que soit ils y trouvent la possibilité de travailler en distance avec leur activité qui, elle, peut rester en ville, ou bien parce que localement, ils montent leurs propres activités. Et cette évolution de profil de population est à mettre en relation aussi avec, je dirais, une forme de rapprochement des citoyens. En ce sens que si on regarde un peu en arrière, il y a 30 ou 40 ans, on pouvait assez facilement identifier un habitant rural avec un habitant urbain. Il y avait qu'à regarder, je le dis souvent, il y avait qu'à regarder comment il était habillé pour se rendre compte de qui habitait la ville, qui habitait la campagne. Aujourd'hui, c'est plus vrai. D'abord parce que les ruraux se déplacent et aussi parce qu'ils ont accès à la télévision comme beaucoup. Donc il y a une uniformisation des modes de vie qui rend d'ailleurs difficile la tâche des élus aujourd'hui, parce qu'on se retrouve avec des populations qui ont des exigences ou des attentes en tout cas identiques à ceux qu'ils pouvaient connaître en milieu urbain, alors qu'on n'a pas toujours les moyens d'y répondre. Donc ça nous oblige à regarder sans doute différemment les territoires ruraux. Et moi, j'y vois vraiment une renaissance, mais pas au sens retour, encore une fois, retour des racines, mais comme espace de développement et comme réponse aussi aux problèmes que la ville rencontre. Malheureusement, on n'a pas de ministère de l'aménagement du territoire dans ce gouvernement-là. Mmh. On a une ministre chargée de l'égalité territoriale et du logement, mais elle est surtout préoccupée par le logement. C'est un petit peu dommage, parce que moi, je pense que si on s'intéresse à la ruralité, par voie de conséquence, on s'intéresse aussi aux problèmes de la ville. Et je pense qu'il faut retrouver une approche d'occupation de l'espace, d'aménagement du territoire, ne pas fragiliser davantage le tissu de service public qui est nécessaire. Voilà, je pense qu'il faut regarder différemment la ruralité aujourd'hui.
Justement, on parlait des services publics. Depuis 20-30 ans, on assiste quand même à une certaine désertion sur des politiques nationales qui font disparaître des tribunaux, des services, bientôt les sous-préfectures, des services publics tels la Poste.
Alors, vous voyez, je vais vous dire, c'est pour ça que je parle de rénovation. Il ne s'agit pas de demander le statu quo et le maintien d'un service public tel qu'on connaissait jadis. Pour moi, le service, il est là pour répondre à un besoin. Et si les besoins changent, il faut que le service s'adapte.
Oui, mais si le rural regagne des habitants, oui, mais si ces services-là publics étaient là avant...
Ce que je veux dire, c'est que la forme pour rendre le service peut être différente. Oui. Vous avez cité l'exemple de La Poste. Pour moi, c'est un bel exemple. Je trouve que La Poste est injustement stigmatisée. D'ailleurs, quand on parle de retraite de service public en milieu rural, en général, dans les trois consignes qu'il y a La Poste, c'est assez injuste parce que, justement, La Poste a tenu compte de la situation et fait des propositions nouvelles de rendre les services avec notamment les agences postales communales. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation des services qui se fait. C'est le cas dans mon village, vous voyez, où on a donc transformé le bureau de poste en agence postale communale et on a adjoint une activité d'office de tourisme. Eh bien, je pense que c'est la meilleure manière pour maintenir les services publics dans la mesure où on est capable de les amener à s'adapter aux conditions économiques du moment et aux attentes des populations. Donc il ne s'agit pas de préserver des schémas anciens qui sont devenus obsolètes, mais plutôt d'imaginer des formes nouvelles de services.
D'accord. Ok. Si on avait une question aussi sur la gouvernance, c'est vrai qu'on voit que les communes se voient transférer de plus en plus de compétences vers les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, qui dont la ville-centre est généralement une commune urbaine. Donc comment, quelle est la place des communes rurales dans cette nouvel aménagement du territoire qu'on observe depuis 15-20 ans?
Vous touchez là un sujet très délicat et qui est en plein dans l'actualité avec la réforme de la décentralisation. C'est le thème d'ailleurs de notre Assemblée Générale demain.
Ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation.
Voilà, l'acte 3 de la décentralisation, où c'est l'occasion un petit peu de rebattre les cartes et de voir un petit peu différemment les choses. Chez nous, pour les maires ruraux, on a une analyse qui est très simple. Et on dit la chose suivante, l'intercommunalité, c'est un outil au service des communes. C'est un peu comme une coopérative de moyens, si vous voulez. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Le fait que les communes s'associent pour faire à plusieurs ce qu'elles ne pouvaient pas faire toutes seules. Les adductions d'eau, par exemple, le développement d'électricité. Il y a belle lurette que tout ça se fait sur une échelle intercommunale. Donc, ce n'est pas nouveau. Et là où on est très attentif, c'est que certains, notamment des gens qui ont une approche très urbaine et technocratique, tant pis si c'est péjoratif, de l'aménagement du territoire, qui consiste donc à concentrer les niveaux de collectivité ou les services dans les pôles urbains de la strate supérieure. Pour nous, c'est un non-sens, hein, c'est-à-dire que c'est un peu la mode, hein, d'ailleurs, hein. Je me souviens des propos d'Edouard Balladur quand il avait rédigé un texte sur l'organisation nouvelle des collectivités. Il disait à terme, la commune doit s'évaporer dans l'intercommunalité et le département doit s'évaporer dans l'échelon régional. Eh ben, moi, je partage pas ce principe-là. Je pense que chacune des strates a son utilité. Que sans doute, il faut clarifier les missions des uns et des autres pour pas qu'il y ait de chevauchements inutiles et des pertes de moyens, mais chacun a sa place. Et l'intercommunalité, elle a son utilité si effectivement elle permet de résoudre une difficulté ou répondre à un service que l'échelon communal ne peut pas assumer. Voilà. Mais en aucun cas, c'est l'antichambre de la mort de la commune. D'ailleurs, les gens sont attachés à l'échelon communal. Hein. Ils se reconnaissent dans un village, même dans une ville d'ailleurs. Hein. Alors que l'intercommunalité, c'est un outil. Moi, je dis parfois, on peut être amoureux de son village, mais on n'est pas amoureux d'une caisse à outils. Et pour moi, la communauté de communes, c'est une dimension technique.
Jean-Paul Biot, une réaction peut-être sur l'évolution politique des services publics dans le monde rural Qu'est-ce que dit la sociologie rurale sur...
Je sais pas.
Est-ce que ça accompagne pas
J'entends très bien ce qui est dit là. Et je suis tout à fait d'accord. Simplement, les débats qu'il y a pu y avoir. Enfin, c'est-à-dire que la commune a un rôle qui est identitaire, évident. Dire la Révolution française a tenté de simplifier le maillage communal, elle n'y a pas réussi. Je me souviens de projets. Enfin, je sais pas si je dis une bêtise, mais Monsieur le Président le dira, il doit le savoir davantage que moi. Mais je me souviens de projets du côté de Giscard d'Estaing pour également envisager une réduction de passage de 36 000 communes à etc. Et que même si dans le mouvement de regroupement communal, il y a une sorte de rationalisation budgétaire et puis de mise en commun des moyens qui a une logique économique et une logique de coût marginal qui est évidemment relativement efficace, c'est évident que l'identité des gens sont attachés. La commune, c'est le lieu où on est, c'est le lieu où il y a le maire, c'est le lieu où il y a une sorte de projection identitaire sur cet espace-là. Il peut perdre des attributs. La petite commune peut perdre des attributs en termes de gestion de son espace, c'est évident. Et il y a des tensions, je pense. Enfin, je suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il y a des tensions entre les petites et les grandes communes très souvent dans ces dispositifs de intercommunaux. Il y a des tensions, mais il est évident que les petites communes dans ces dispositifs-là sont celles qui sont de toute évidence le plus attachées à maintenir le maillage qu'elles représentent.
Voilà, vous avez fait écho à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 71, quand le ministre du moment de l'Intérieur, qui s'appelait Marcelin, a voulu fusionner de façon autoritaire les communes.
Voilà,
rurales.
C'est le souvenir que j'en avais, oui, un peu voilà, vague. Mais...
Ça n'a pas marché parce que c'était fait sous une forme autoritaire. Et aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que des communes fusionnent dès lors que c'est la volonté des communes. Nous, on n'est pas opposés hein, à la fusion de communes,
oui.
Mais ça doit partir de la population. Et les difficultés que vous évoquez entre une commune centre urbaine et puis celle qu'il y a autour, elles sont tout à fait réelles. Pas tant, si vous voulez, par rapport à des moyens qui seraient mal partagés, encore que on peut en discuter, mais c'est surtout que les communes qui sont autour ont un potentiel de territoire qui est réel. Aujourd'hui, une ville ne peut plus se développer en hauteur, c'est plus la mode. Elle peut ne faire que en largeur, en surface. Et les premiers qui sont là et qui posent problème, c'est effectivement les communes rurales de la périphérie.
Donc, qui sont des réserves d'espace, en définitive.
Qui sont des réserves d'espace. Nous, on est bien...
Et des ressources
c'est
pour...
C'est vraiment notre atout principal, c'est le foncier. Qui est vraiment notre richesse. Et puis on peut aussi parler des problèmes d'artificialisation de la terre avec les espaces agricoles qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire en fait. Hein.
Ouais.
Et c'est vraiment un sujet très important.
D'accord. Merci Vanik Berberian. Alors c'est vrai qu'on avait encore des questions à vous poser, mais on va vous demander. On va devoir accueillir la réalisatrice du documentaire sur Espinasse Village Rural. On va faire une pause musicale maintenant. Et donc, on vous remercie, Vanik Berberian, voilà, d'avoir participé à notre émission. On rappelle que vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France et maire de Gargilès-Dampierre, dans l'Indre.
Dans l'Indre.
Voilà.
Et puis demain, on a notre congrès des maires ruraux de France à Lyon sur le thème de l'acte 3 de la décentralisation.
D'accord, on suivra cette actu de près. Merci beaucoup.
Merci, je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Alors, on va écouter Bob Marley, Natural Mystic.
Il doit être en train de fumer.
Tout va bien. Voilà.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic sur le monde rural ce soir. On accueille tout de suite Cécile Yordanoff. Cécile Yordanoff, vous êtes là ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir. Vous êtes réalisatrice d'un documentaire Espinasse, un village de France au XXIe siècle. C'est un village que vous connaissez bien, je crois.
Pardon ?
C'est un village que vous connaissez bien, vous habitez dans ce village.
Oui, tout à fait. Donc ce film, je l'ai tourné dans le village que j'habite maintenant depuis une vingtaine d'années, en effet, oui.
D'accord, donc en fait, quelle idée vous a pris en fait de réaliser ce documentaire? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer on va passer quelques extraits tout à l'heure.
C'est arrivé assez vite puisque donc je suis réalisatrice, donc forcément ça paraît presque évident, je travaillais donc sur Paris, hein. Et en 92, tout d'un coup, je suis venue effectivement. Ça fait partie de ce que vous disiez tout à l'heure.
Hein. Vous êtes une néo-rurale, enfin.
Voilà. Une néo-rurale, effectivement.
Quitter la ville.
Quitter Paris pour des raisons aussi pratiques. Je pense qu'il y avait ça aussi, hein, en tant qu'intermittent du spectacle. Il y avait un moment donné où j'ai pensé que c'était plus facile de vivre peut-être à la campagne pour avoir au moins un toit, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis installée dans le sud-ouest, un pays qui fait partie du Quercy-Rouergue, hein, qui est entre Cahors et Montauban et Villefranche-de-Rouergue pour situer. Et donc dès que je suis arrivée ici, forcément il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé de plein fouet. Hein. J'avais un peu l'impression.
Est-ce que vous aviez jamais vécu dans le monde rural auparavant?
Pourtant si, quand j'étais enfant, on était dans un milieu plutôt rural, mais finalement, je pense qu'on vivait comme vivent beaucoup de néo-ruraux actuellement, hein. On vivait à la campagne, mais dans un milieu qui n'était pas non plus agricole. Et quand je suis arrivée là, tout d'un coup, effectivement, dans un endroit qui est vraiment, vraiment très, très, très rural et qui est une région essentiellement d'élevage, là, tout d'un coup, j'ai réalisé que je connaissais pas forcément vraiment le pays dans lequel je vivais. Et donc, j'ai beaucoup intégré ce qui était en train de se passer autour de moi. Et surtout, j'étais très frappée par le fait qu'on était en train de vivre une époque où ça allait basculer rapidement vers autre chose. Et j'ai eu envie, effectivement, de commencer à filmer les choses qui me frappaient.
Est-ce que vous avez commencé à tourner vers quelle époque? Vous êtes arrivé dans le milieu des années 90?
J'ai commencé assez tôt, hein. J'ai commencé en 98, on va dire, vraiment épisodiquement. Puis après, ça s'est accéléré entre 2003, on va dire, et 2012.
D'accord. Donc, vous avez pris votre temps.
Pardon.
Vous avez pris votre temps pour.
Voilà, exactement.
Pour
c'est
tourner
un petit peu
différentes séquences
dans ma carrière. Hein. C'est pendant que je travaillais sur d'autres films qui étaient quand même, de toute façon, sur le thème quand même de la nature essentiellement. Parallèlement à ces commandes, ces films que je devais rendre hein, de façon plus conventionnelle, j'ai peu à peu filmé moi-même ces images avec une caméra Betacam que j'avais à l'époque. Et puis un jour, tout d'un coup, je me suis dit, mais quand même, c'est assez urgent, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je restitue tout ça à mon village, en fait. Hein, et j'ai fait effectivement le montage de tout ça. Après, il est arrivé une histoire parallèle, donc c'est une histoire vraiment d'intégration, parce que j'étais d'abord observatrice, je suis rentrée de plus en plus dans ce sujet, donc j'ai filmé. Et puis à un moment donné, par des hasards un peu étranges, je me suis vraiment imprégnée de mon sujet, puisque maintenant, je vis dans une ferme. Voilà.
D'accord.
Je fais toujours mon métier de réalisatrice, mais je vis donc maintenant avec un éleveur. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de filmer d'un peu plus près certaines choses.
Oui. On va écouter un premier extrait de votre documentaire qui traite un peu du déclin économique, et en tout cas de la diminution du nombre d'agriculteurs.
De canines qui arrivent, tu les connais pas, tu sais, ils arrivent là avec une exigence totale, tu sais pas qui c'est, tu peux pas parler franchement, tu les cernes pas. On a commencé, quand je suis arrivé, on avait 1200 clients dans l'ordinateur, en rural, hein. Ça veut dire qu'il y avait 1200 clients qui avaient des vaches. Maintenant, on doit être à peu près à 700.
Ça va pas faire en s'améliorant, je pense.
Non.
La population étant âgée, la population agricole, une population âgée.
Et... Des laitiers qui ont maintenant 56 ans, 57 ans, bon ben ils veulent plus faire de frais. Ils savent que les enfants ne vont pas reprendre. Donc avec les mises aux normes, même si on les pousse à 58 ans, ils arrêtent. Hein. Quand je suis arrivé, quand on attaquait la route, si tu veux, de là pour aller faire les 3 km pour aller en bas de la route, il y avait 15 exploitations où il y avait 10 vaches. 15 vaches. Il fallait une journée. Maintenant que tu fais la route, il n'y a plus une vache. Il n'y a plus une vache.
Alors là, on entendait
vétérinaire.
Un vétérinaire qui travaille donc avec les agriculteurs. Vous, depuis la période où vous êtes arrivé dans le village, vous avez vécu cette évolution de la diminution de ce nombre d'exploitants, du vieillissement de la population?
Alors, le vieillissement de la population, oui, je suis arrivée après. Hein, la personne qui était interviewée avant moi l'expliquait bien. Hein, effectivement, il y a eu des mouvements de migration des populations, de départ, et puis maintenant d'arrivées nouvelles. Donc, ce phénomène est allé en s'accentuant, effectivement, ces 50 dernières années, on va dire. Hein, les exploitations ont diminué en nombre. Par contre, elles ont augmenté en volume. Hein, donc, il y a moins d'exploitations qui sont plus grosses. Ça va un petit peu dans le sens économique actuel, mais ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. C'est que, premièrement, effectivement, il y a moins de personnes qui vivent à la campagne, puisqu'ils sont moins nombreux. Et les conditions de vie des agriculteurs, effectivement, sont plus complexes et plus difficiles, puisqu'ils ont davantage de travail et qu'ils sont obligés d'avoir recours à une mécanisation supérieure, à des rythmes de travail supérieurs aussi.
À un moment, ils le disent.
Aussi, hein.
Ils le disent à un moment dans votre documentaire. Avant, nous, on faisait pas tout ça avec tous les papiers et l'informatique, etc.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, ça a suffi d'une génération pour franchir ce pas, hein, puisque la personne qui parle donc est le père de l'exploitant actuel qui a une quarantaine d'années. Donc effectivement, ils sont passés la génération d'avant où il y avait, je sais pas, une exploitation vivait avec 20, 30, 40 bêtes en bovins, 100 brebis, c'était déjà beaucoup. Hein. Maintenant, on l'explique plus tard dans le film, il faut au moins 400 brebis pour arriver à vivre, et puis des troupeaux de vaches, effectivement, sont au minimum multipliés par deux. Et en plus de ça, effectivement, il y avait une certaine liberté dans le métier qui s'organisait de manière assez simple, hein, avec des maquillons, des marchés, des foires. Et maintenant, on est arrivé dans l'ère, comme partout, du papier. Tout est administratif, tout est régi par un ensemble de règles. Et c'est pas toujours facile pour les agriculteurs de se conformer à tout ça, quoi. Hein. Donc,
au-delà de l'agriculture, ce que vous avez voulu filmer, c'est le lien social fort qu'il y a dans le village. On va écouter un deuxième extrait qui évoque les traditions des obades et du maintien du lien social dans le village.
Oui.
Deuxième extrait qui arrive tout de suite.
Oui.
Bonjour.
Et voilà.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Les obades, c'est une tradition qu'on a conservée ici à Espinas. On passe dans les maisons et les fermes, on vend une bricole. Ici, c'est une brioche, ailleurs, c'est une fleur ou autre chose. Et on nous donne en contrepartie de l'argent pour organiser la fête du village.
Venez voir le projet.
Non, c'est bon, ouais.
On est nombreux aujourd'hui.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Allez, le compte est bon. Qui c'est qui veut du Ricard là? Tous les hommes?
Allez.
Déjà?
Ouais,
Mylène. Mylène, Ricard?
Ah non, je décide.
3, Cécile, 4 verres vides après. Et je sais pas si il y aura quelqu'un, je sais pas. Il va pas fort, hein, Ricard?
C'est pas obligé.
Non, pas se trop, non.
Ah.
Ouais, je veux dire, ici, les gens, je veux dire, les obades, ouais. Tu prends un musicien, tu prends une voiture et tu fais la tournée de toutes les maisons, quoi. C'est bien, c'est sympa.
C'est important pour les gens du pays qu'on passe les voir. Parfois, ce sont des personnes un peu isolées et sont contentes d'échanger des nouvelles et de voir que les jeunes continuent de faire vivre le village.
Donc on voit ici les obades, mais on voit tout au long des saisons les différentes traditions ou les différents moments forts que vous avez voulu filmer. Vous m'avez dit en préparant l'émission, vous avez peur un peu que cela disparaisse, et c'est aussi pour ça que vous avez voulu les inscrire. Vous sentez un peu que c'est fragile ces traditions?
Tout à fait, c'est extrêmement fragile. Et vous avez bien fait de choisir cet extrait parce que ça rebondit sur ce que disait tout à l'heure Jean-Paul, je crois que c'est ça le nom, sur le rôle identitaire important de la commune. Parce qu'effectivement, je sais que parfois, il est arrivé en projection qu'il y a eu des personnes parfois qui disent « Mais où est le village, en fait hein ?» Le titre parle d'un village au XXIe siècle. Ils s'attendaient à voir un village classique avec la poste, l'école, tout un tas de choses, un peu presque citadines, hein, finalement. Et le village, on ne le voit que quand il y a des événements importants, rassembleurs, qui sont les fêtes essentiellement. Mais il y a aussi, dans le film, on le voit, les élections législatives hein, de 2007, qui en plus est assez amusant parce qu'elles se déroulent en même temps que la fête traditionnelle annuelle du village. Et il est bien sûr hors de question de déplacer la fête traditionnelle annuelle du village sous prétexte qu'il y a les élections législatives. Donc tout ça se fait ensemble, en même moment, hein, le devoir civil qui restait une notion très importante à la campagne, mais aussi la fête. Donc on rentre avec son verre de pastis, on le pose poliment, on va voter et puis on revient faire la fête. Il y a le monument aux morts, on dépose une gerbe. Voilà. Donc ça rejoint cette importance qu'on retrouve dans les obades ayant eu lieu la veille de cet événement d'ailleurs. Hein. Oui. C'est ce rôle identitaire important. C'est-à-dire que le village n'existe plus en tant que lieu d'échange commercial, on va dire, hein, puisque ici il n'y a plus ni poste, ni bar, ni épicerie, ni tout ce qu'il y avait avant. Mais ça reste le lieu de rassemblement. Il est hors de question que ce village, dans la pensée de tous, se rattache à un autre village. Espinasse, c'est Espinasse. Et les habitats sont très disséminés, puisque nous sommes dans un coin où l'agriculture est quand même encore très vivante, hein, malgré tout. Beaucoup de fermes sont reprises par les enfants. Peut-être est-ce aussi le phénomène de la crise, hein, qui encourage à rester sur les fermes plutôt que de se retrouver au chômage. Toujours est-il qu'on a cette vie agricole très disséminée dans les hameaux et un peu partout autour de ce point de rassemblement phare qui reste quand même le village.
D'accord.
Ah, je ne sais pas si monsieur est toujours là.
Si, oui, on va pouvoir avoir une réaction pour conclure en fait de monsieur Jean-Paul Billot.
En vous écoutant, je réfléchissais, enfin disons, ça m'évoquait tout le travail qui a pu être fait depuis 30-40 ans parmi les sociologues ruraux, les ethnologues, qui ont beaucoup utilisé aussi le support du film pour rendre compte à la fois de quelque chose qui disparaissait, qui partait. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est, je n'ai pas vu votre film, donc je serais très intéressé de le voir, c'est-à-dire que quand on fait, c'était un petit peu face à quelque chose qui disparaissait. On essayait de garder dans le marbre, j'allais dire, des traditions qui étaient battues en brèche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est autre chose qui s'opère par ce type de travail que vous faites, cinématographique, c'est-à-dire que c'est un travail pour, c'est aussi, c'est pas simplement de la résistance, c'est aussi pour essayer de montrer que quelque chose est en train de se construire avec des éléments qui sont un peu nouveaux. Alors, on travaille pour soi, on se met en scène pour soi. Est-ce qu'on se met en scène pour les touristes? Je sais pas. Enfin, je sais pas dans quel cadre vous avez fait ça. Mais je trouve que c'est une opération qui est intéressante et qui mériterait d'être apportée à ce qu'on faisait il y a 20 ans dans le même genre pour savoir si l'objectif et les enjeux de ce travail sont identiques ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Alors là, oui, vous me
oui. Alors,
effectivement, garder
le mot de la fin.
C'est effectivement d'essayer de conserver ce qui se passe à un temps X, une image, mais effectivement dans l'idée de voir qu'est-ce que ça va devenir plus tard, parce qu'effectivement ce premier volet, là, on voit beaucoup quand même plus les personnes un peu plus âgées, parce que ce sont elles qui sont restées évidemment au village. Mais les jeunes sont restés très attachés néanmoins au village de leurs parents. Ceux qui ne sont pas agriculteurs et qui vivent à l'extérieur reviennent. Il est hors de question qu'ils loupent le moins d'événements liés à leur village. Ils cherchent par tous les moyens à revenir habiter, en tout cas dans le plus proche possible de ce village.
Très bien,
donc,
merci.
Demain, ce que j'aimerais voir, effectivement, c'est ce que ça va devenir. Et peut-être que pendant ce premier volet, j'avais un peu écarté justement le volet néo-rural parce que c'est resté assez, pas anecdotique, mais un peu. Et
On vous remercie, on va être obligé de laisser l'antenne là parce qu'il y a l'émission suivante qui arrive. Donc, on invite les auditeurs à voir votre film Espinasse, un village en France au 21e siècle.
Et on remercie Jean-Paul Billot et Vanik Berberian d'avoir participé à cette émission. On avait encore plein de questions et on finit par Mano Solo des pays. Merci.
Merci à tous.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Rediffusion le mercredi.